France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Après une soirée en ville, elle rate son train. Et...
Bonjour à toutes et à tous. C'est presque un faux départ, mais ce son, on va l'entendre dans quelques instants. Vous êtes bien sur Planète Terre et son nouvel horaire. Planète Terre est toujours diffusée en direct le mercredi, mais de 16h à 17h, comme les 5 émissions de la tranche Culture Science. Alors l'émission d'aujourd'hui s'inscrit dans la journée que France Culture consacre depuis ce matin aux femmes. Oui, il devrait peut-être y en avoir plus souvent, mais cette année, en janvier 2016, il y en a une, car ce programme est en écho aux violences subies par les femmes à Cologne et dans d'autres villes d'Allemagne. C'était lors de la Saint-Sylvestre. Un événement qui fait lui-même écho aux violences subies par les femmes place Tahrir lors de la révolution égyptienne, dans un événement très paradoxal donc, et dont nous allons célébrer le 5e anniversaire le 25 janvier prochain. Et maintenant, le son d'archives, le son d'actualité que vous avez inopportunément entendu avant mon lancement.
Après une soirée en ville, elle rate son train et se retrouve coincée dans la gare de Cologne. Le début d'un long cauchemar.
Les gens arrivaient par la droite et par la gauche. Ils passaient devant nous sans s'arrêter et ils ont commencé à nous toucher les fesses. Certains nous interpellaient et quand ils souhaitaient nous parler, ils s'arrêtaient devant nous et ils nous demandaient « Comment ça va? Que fais-tu ?» Et quand tu répondais que tu ne voulais pas leur parler, tu étais la salope, la pute, tu te faisais insulter.
Harcelée, pendant presque une heure, la jeune femme sera finalement mise à l'abri par un agent de sécurité de la gare.
Ça se passe pendant que vous marchez, à la volée, sur les fesses et ailleurs aussi. C'est difficile à dire, on avait surtout peur que ça dégénère.
Klaus, lui, passe la soirée en famille dans cette brasserie proche de la gare. Vers minuit, il sort du restaurant pour regarder les feux d'artifice avec sa fille de 18 ans.
Ma fille était debout juste à côté de moi et j'ai sursauté en l'entendant crier. Et j'ai vu un homme de type moyen-oriental mettre sa tête dans son décolleté, la soulever en la serrant dans ses bras si fort qu'elle avait du mal à respirer. Elle a crié, et je me suis retourné et j'ai plaqué l'homme au sol. Là, j'ai entendu ma fille crier encore. Je me suis dit, que se passe-t-il? Elle m'a dit, un autre homme vient de me pincer les tétons. J'ai essayé de la protéger encore plus en mettant mon bras en évidence sur son épaule. Il y avait encore des étrangers qui essayaient de la tripoter. J'en repoussais un, le suivant arrivait. Et c'était un chemin de croix pour réussir à la protéger.
Alors ce son-là, ce reportage, on n'a pas été le trouver sur France Culture, ni même sur Radio France, mais sur BFM TV, il a été diffusé le 16 janvier 2016. Donc c'est un reportage situé et peut-être mes invités auront-elles envie de le commenter pour ce qu'il est. Mais ce qui est sûr, c'est que à Cologne, comme au Caire, les violences à l'encontre des femmes s'ancrent dans une organisation de l'espace public, on l'entend bien dans ce reportage, organisation de l'espace public qui assigne des places fixes aux femmes et aux hommes, comme si, pour certains et dans certaines circonstances, dès lors qu'une femme est dans l'espace public, elle devenait un objet public. Et c'est-à-dire que l'espace privé, domestique, est lui un espace égalitaire, sans domination ni violence masculine. La réponse est non, tout le monde le sait, comme le démontrent par exemple les travaux qui portent sur la pratique du viol en Inde. Pour autant, dans cette émission de géographie, nous n'évoquerons pas seulement la violence, car repérer la façon dont la violence contre les femmes fait territoire, c'est se confronter à un enjeu global. L'espace des femmes est-il en recul dans le monde? Et c'est bien le sujet de Planète Terre cette semaine. Alors, élément de réponse avec mes trois invités. Gaëlle Gillot, d'une part, Kamala Marius, d'autre part, et enfin Elisabeth Hoffmann. Bonjour à toutes trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Gaëlle Gillot, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Paris 1 et je crois ne rien dévoiler en disant que vous êtes spécialiste du genre et des femmes dans l'espace public au Maghreb et au Machrek et plus généralement dans le monde arabe. Vous rentrez d'ailleurs de 3 ans de terrain et de recherche. Vous étiez en délégation à l'IRD au Maroc. Kamala Marius, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Bordeaux 3, également enseignante à l'IEP de Strasbourg. Vous êtes d'ailleurs en duplex depuis les studios de France Bleu Alsace. Et votre spécialité, si j'ose dire, c'est le travail des femmes dans le sous-continent indien et plus généralement généralement les études de genre en géographie. Elisabeth Hoffmann, vous êtes maîtresse de conférences, vous aussi à l'université de Bordeaux-Troyes, et votre spécialité, c'est la place des femmes dans les pays d'Afrique subsaharienne, et vous étudiez en particulier les phénomènes de violence, comment les caractériser, comment les comprendre, et vous êtes également en duplex, vous, depuis les studios de France Bleu Gironde. Donc vous voyez, on a une émission en direct avec une invitée à Strasbourg, une invitée à Bordeaux, une invitée à Paris et trois maîtresses de conférences. Alors, ces événements qui motivent cette journée violence contre les femmes sortir du silence sur France Culture, les unes et les autres, est-ce que vous pouvez nous aider à les replacer dans un tableau d'ensemble du harcèlement des femmes dans l'espace public ? Gaëlle Gillot.
Oui, alors, en fait, ces événements-là mettent en lumière des faits qui se déroulent très régulièrement dans les villes, dans toutes les villes du monde en réalité. C'est une pratique courante que le harcèlement, qui a donné lieu à de nombreuses recherches, des luttes incessantes des ONG, et qui existe malheureusement partout. On le trouve dans les pays occidentaux, en Amérique du Nord, de la même manière qu'on le trouve aussi en Afrique du Sud, en Afrique, dans plein de circonstances différentes. C'est quelque chose de très largement partagé.
Y compris sous cette forme, comment pourrait-on la qualifier, de collective ou en bande, c'est vrai qu'on a très peu d'informations, hein. Ça a été dit à plusieurs reprises, non seulement aujourd'hui, mais dans d'autres émissions, je pense à l'Esprit Public dimanche dernier sur cette même antenne, on a très peu d'informations, la police allemande en a diffusé très peu, mais néanmoins je vous pose quand même la question, Gaëlle Gillot, y compris donc sous cette forme que je qualifie de collective ou en bande, peut-être organisée, faute de mieux et faute d'informations plus précises, vous diriez que oui, c'est quand même quelque chose sous cette forme-là, générale, disons, qu'on trouve partout.
Alors, partout peut-être pas, mais en tout cas on le trouve régulièrement dans différents pays et on le trouve en bande. C'est peut-être un peu plus nouveau pour ce qui concerne l'Allemagne par exemple, mais en tout cas c'est souvent ça intervient dans des moments de un peu différents du quotidien, notamment dans des moments de fête ou des moments où les règles ne sont plus tout à fait les mêmes dans l'espace public. Par exemple pour l'Égypte ou même pour la Tunisie, c'est aussi dans des grands moments de rassemblement à l'extérieur où ce type de harcèlement collectif intervient. Il y a comme une espèce d'effet de foule, d'effet de masse qui redessine les normes de comportement dans l'espace public et qui permettent des transgressions importantes au niveau des relations entre les genres.
Kamala Marius, votre sentiment sur cette question, qu'est-ce que ça nous dit du harcèlement, si j'ose dire, dans l'espace public à l'échelle globale ?
À l'échelle globale, oui, on retrouve ces phénomènes partout dans le monde. C'est vrai qu'en Inde, on en parle moins. On a beaucoup plus parlé des viols, mais pas à l'échelle, enfin, des viols collectifs qui étaient célèbres, le fameux viol de décembre 2012. Donc, du coup, la violence sexuelle est souvent associée d'ailleurs à l'image de l'Inde, ce qui est moins le cas ailleurs. Mais dans ces grands, il y a eu des grands rassemblements aussi en Inde, par exemple des rassemblements contre la corruption, où il y a des millions de gens où j'ai pu y assister. J'avais pas le sentiment d'être harcelée à ce point. En revanche, dans l'espace public, et surtout quand on prend le bus, ou quand on prend le train, ou quand il y a des foules, il est certain qu'on se fait peloter tout le temps. Ça, c'est évident, et ça depuis toujours. C'est une pratique même tellement courante qu'on sait qu'on doit se balader avec des épingles à nourrice ou de quoi se défendre, quoi.
Dans les villes indiennes, dites-vous.
Oui.
Et alors, oui. Elisabeth Hoffmann, pour votre part, donc,
Si vous me permettez,
je vous en prie, bien sûr.
En fait, je suis allemande, je vis en France depuis 20 ans, mais Cologne est une ville que je connais un peu, et Cologne est entre autres connue pour son carnaval. Donc,
qui va avoir lieu bientôt cette année, si je ne m'abuse.
Qui va avoir lieu bientôt, tout à fait. Mais carnaval est aussi une de ces opportunités un peu extraordinaires, hein, comme ça a été dit, et ces moments où il y a des foules, un peu alcoolisées, etc. Moi, j'ai pas les statistiques sous la main, mais dans certains journaux allemands, ça a été assez clairement dit que les statistiques de plaintes pour harcèlement, etc., ne sont pas si différents un jour de défilement de carnaval que ce Saint-Sylvestre. Donc la grande problématique par rapport à ce qui s'est passé à Cologne le 31 décembre, c'est qu'il y a quand même une ou plutôt le 1er janvier, une récupération très forte par cette focalisation sur soi-disant l'origine étrangère des auteurs. Et ça, c'est quand même quelque chose de très problématique. Les faits sont très graves, bien sûr, mais ils sont aussi graves quand ils sont commis par des Allemands. Un jour de carnaval ou quand ils sont commis à Munich autour de la fête de la bière en octobre, etc. Et c'est là où toute cette mobilisation autour des faits de Cologne doivent être quand même pris avec une certaine préconisation parce que en effet il y a une instrumentalisation très forte de Pegida en Allemagne qui est pas toujours très très saine et qui parfois voile aussi le fin fond de l'histoire. C'est que en effet les femmes dans l'espace public malheureusement de manière un peu universelle ont du mal à être vraiment tranquilles, à se sentir en sécurité et à ne pas se faire se faire molester de toutes différentes sortes.
Donc si je vous entends bien, toutes les trois, pour vous le harcèlement sexuel est un phénomène que je pourrais qualifier, dites-moi, je parle sous votre contrôle, d'universel. Et finalement, pour vous, il n'y aurait que des différences éventuelles de degré dans la façon dont il peut être pratiqué selon les pays ou selon les cultures, mais pas de différence de nature d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre. Gaël Gillot, je vous regarde non seulement parce que vous êtes en studio à Paris, en face de moi, alors qu'Elisabeth Hoffmann est à Bordeaux et que Kamala Marius est à Strasbourg. Mais je vous regarde aussi parce que le sous-entendu de ma question, évidemment, c'est Elisabeth Hoffmann faisait allusion au mouvement Pegida, qui est ce mouvement politique de défense de l'Occident chrétien, anti-musulman et anti-islamiste. Le discours mainstream du moment, c'est de dire ah ben, vous voyez bien, il y avait ça à Tahrir, à Place Tahrir, il y a 5 ans au moment de la Révolution, on trouve ça aujourd'hui à Cologne, il y aurait donc un problème spécifique au monde musulman ou au monde arabo-musulman s'agissant de la place de la femme dans l'espace public et dans l'espace privé.
Oui, c'est très pratique. C'est très pratique de trouver que c'est l'autre qui harcèle les femmes. Alors, on n'a pas d'informations, vous le disiez, exactement. On commence à avoir des informations. Il y avait ce matin un article dans La Croix où il y aurait eu...
La Croix qui est partenaire de France Culture pour toute cette journée. Hein. Je vous remercie de le citer.
Et donc, il y avait, il cite dans l'article qu'il y aurait eu 19 suspects à identifier, 14 originaires du Maroc et d'Algérie. Alors, toutes les mobilisations contre les réfugiés syriens, on se demande ce qu'elles viennent faire là-dedans. Sinon, effectivement, une récupération qui culturalise ce harcèlement. Et le fait de dire que le harcèlement vient d'ailleurs, hein, c'est très pratique pour ne pas reconnaître qu'il existe dans sa propre société. Et que on peut aussi trouver dans cette mise en avant de personnes étrangères à la société qui pratiquerait le harcèlement, on peut poser la question quand est-ce que le harcèlement est le plus scandaleux? Et en particulier, on le voit toujours, c'est scandaleux quand ce sont les autres qui harcèlent les nôtres. Dans le traitement de cette affaire, il y a quelque chose qui est très gênant, c'est-à-dire que on pose la question on désigne une catégorie de personnes qui sont coupables. Il y a eu beaucoup de travaux sur le harcèlement, mais par exemple, vous savez peut-être que dans beaucoup de pays, dans à peu près 25 cas, il y a des voitures séparées hommes-femmes dans les métros ou dans les bus ou dans les trains de banlieue. Et par exemple, au Japon, on a mis en place des voitures spécifiques pour les femmes pour éloigner les jeunes filles de bonne famille qui allaient faire leurs études en centre-ville des ouvriers. C'est très pratique pour mettre à l'écart aussi les néo-urbains en Égypte, qui sont toujours désignés comme les personnes coupables. Les jeunes non mariés, soi-disant frustrés, partout on va les mettre à l'écart. Et par exemple, à Istanbul, en 2005, on a inauguré un jardin qui était réservé aux femmes, destiné à écarter cette catégorie particulièrement dangereuse pour les femmes. Sauf que là, on désigne aussi des étrangers, des migrants, entre guillemets, des pauvres, de manière générale aussi. Et désigner par des catégories comme ça, par l'altérité, en fait, des coupables idéaux, ce qui n'excuse en rien, évidemment. Il faut vraiment qu'on soit très clair là-dessus. Hein, je condamne absolument ce genre d'agissement, évidemment. Mais toutes les études sur le harcèlement sexuel ont montré qu'il y avait plusieurs éléments à prendre en considération.
C'est multifactoriel.
C'est multifactoriel, bien sûr. Et il faut se poser la question de quels hommes sont considérés comme harcelant quelles femmes. Et en Égypte, notamment, quand on a, avec Marion Tillius, on a fait un article sur les voitures séparées hommes-femmes. Et dans cet article, on montre bien,
dans le métro,
on montre bien dans cet article-là qu'à aucun moment, par exemple, les féministes demandent la séparation homme-femme. Mais on se rend compte que l'idée, c'est d'éloigner une catégorie de personnes de nos femmes respectables qui vont leur nuire. Et donc, on a toujours une logique de classe sociale, de hiérarchie dans le processus de civilisation des différentes nations. Ailleurs, ils sont comme ça. Ici, nous sommes comme ça. Ici, c'est différent. Il y a une espèce de consubstantialité, en fait, des enjeux de sexe, de classe sociale et d'origine dans ce genre d'événements-là qu'il faut absolument essayer de déconstruire pour mieux les comprendre.
Marius Kamala, Elisabeth Hoffmann, vous êtes...
Oui, c'est...
Kamala Marius, excusez-moi.
Oui, je voulais réagir.
Oui, allez-y.
Réagir par rapport à ce que disait Gaëlle.
Vous êtes d'accord pour déculturaliser?
Oui, déculturaliser et plutôt avoir, comme le disent les féministes postcoloniales, une lecture un peu intersectionnelle de cela, hein, de ces mobilités dans l'espace. Et on le voit bien dans le contexte indien aussi, il faut prendre en compte et la caste aussi, et la classe, et la communauté religieuse, et le genre. Le genre ne suffit pas à montrer justement ces différences, et je pense que c'est très important de l'intégrer aussi.
Vous voulez dire que les inégalités de genre ou les phénomènes de domination genrée sont accusés, aggravés par d'autres facteurs qui peuvent être sociaux, liés à l'organisation en caste ou en classe?
En classe, absolument. Mm-hmm. Et en Inde aussi, effectivement, pour lutter contre ça, et c'est vrai que les féministes n'étaient pas forcément pour, il y a effectivement dans les bus aujourd'hui, dans les trains, il y a des wagons réservés aux femmes, dès qu'on peut, donc on l'espace public donc est partagé aujourd'hui, hein, pour éviter justement qu'il y ait des problèmes envers ces femmes-là. À tel point que il y a même, on en a parlé en Inde récemment, dans un centre commercial à Delhi, ils ont ouvert même un bar uniquement pour les femmes, un bar avec de l'alcool, uniquement réservé aux femmes.
Alors,
donc on arrive à ce genre de choses.
Ce que je vous propose, juste un instant, puisque vous avez évoqué l'une et l'autre la question des transports comme étant effectivement à la fois très pratique, très concrète, très quotidienne, parce que hein, je pense que c'est important de partir de ces violences pour essayer de parler de la manière dont l'espace fonctionne sur les questions de genre en général. Donc je vous propose d'écouter successivement deux extraits de reportages sur les transports en commun à Paris en Ile-de-France, puis à New Delhi.
Pour éviter d'être importunées, il y a celles qui écoutent à fond la musique dans leur casque, celles qui se plongent dans la lecture d'un roman et celles qui ne s'assoient pas n'importe où.
Bah là, j'ai choisi ma place parce que j'ai vu qu'il y avait une fille à côté. Dans une rame où il y a par exemple un groupe de garçons, je vais éviter de monter, je vais changer de wagon.
C'est vrai que ça a dû m'arriver deux fois dans ma vie, quelqu'un qui passe et qui met une main aux fesses, oui, c'est vrai.
Je souris toujours, donc je ne veux pas changer ça. Je ne peux pas accepter que quelqu'un me dise des commentaires sur la façon que je m'habille. Bah, vous êtes trop belle, oh là là, bébé, je veux juste aller au travail.
Et puis un jour, il y a le passager que l'on n'aurait jamais voulu croiser.
Je me suis retrouvée face à un homme en train de se branler, tout simplement, dans le RERC, du côté de Choisy. Les personnes n'ont bougé. Et il m'a poursuivie dans la gare. Le mec de la RATP n'a rien fait. Je l'ai interpellé derrière son comptoir et il me dit « je peux rien faire pour vous ».
Delhi Metro feeder bus seva, Pitampura station se, Bien sûr, la métro, c'est l'un des transports publics qu'on préfère les femmes pour la raison de sécurité, pour la raison de son rapidité et pour la raison que c'est pas très cher pour nous. Donc le premier compartiment, le premier wagon, il n'y a que des femmes et donc on le trouve une façon de sécurité qui est très bien faite par le gouvernement.
Comment vous réagissez, vous, par exemple, si un homme vous dévisage de haut en bas, s'il vous colle un peu trop dans les transports en commun, puisqu'il y a quand même des wagons mixtes?
Oui. Il y a beaucoup de femmes qui regardent dans les yeux de cet homme, tout d'abord, la première chose. Même si il vous regarde et après, on appelle la police, soit on lui dit de rester un petit peu dehors, tout ça, donc voilà.
Alors, on vient de l'entendre, hein, donc deux reportages qui ont été réalisés et diffusés sur France Inter. Le premier en Île-de-France, sur l'Île-de-France, donc en 2015. Le second à New Delhi, diffusé en 2014. On a vraiment l'impression d'avoir deux visions totalement antagonistes, hein, de l'usage, on pourrait dire, par les femmes des transports en commun. Qu'est-ce que ça vous inspire, Kamala Marius?
Alors, ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est que les femmes n'ont pas peur de moi. Comme elles disaient, je regarde l'homme en face. Et c'est très intéressant de voir ces réactions qu'il y a aujourd'hui en Inde. Je le vois parce que, sous prétexte justement de sécuriser les femmes, par exemple, je prends le cas de New Delhi encore, où on a interdit aux femmes, par exemple, de sortir de leur campus après 18 heures. Du coup, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle « Briser la cage » pour dire « Non, nous sortirons, même à minuit ». Et elles se baladent à minuit exprès pour montrer que, justement, au nom de la sécurité, elles ne veulent pas être enfermées, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a une lutte par rapport à ce harcèlement sexuel ou ce harcèlement, justement, pour, sous prétexte de harcèlement, elles ne veulent pas être enfermées et au contraire lutter contre cet harcèlement en continuant à vivre normalement, en continuant à se promener à toute heure.
Mais alors, est-ce que ça signifie que l'espace, et en particulier l'espace urbain, n'est pas neutre, qu'il est genré et que finalement à une domination masculine structurant la société correspond une domination spatiale? On peut dire ça comme ça ou pas?
D'une certaine manière, bien sûr, hein, puisque on voit bien quand on se balade dans le monde en général, peut-être moins en Europe, mais en tout cas dans ces pays du Sud, il y a des espaces plutôt assignés aux femmes. C'est vrai que les femmes aiment bien se retrouver plutôt dans des shopping malls, comme on dit, dans ces centres commerciaux. C'est là où elles sont très nombreuses, même en Arabie Saoudite, par exemple. Alors qu'elles voudraient être éventuellement ailleurs. Mais parce qu'effectivement, elles ont peur la nuit. Malgré tout, il y a une peur évidente. On ne va pas le nier.
Elisabeth Hoffmann.
Et tout le monde ne va pas dans des shopping malls. Hein. Là, on retrouve quand même la question de l'intersectionnalité. C'est quelque chose plutôt ouverte aux classes moyennes et supérieures. Je voulais aussi rappeler peut-être que la mobilité est quand même un enjeu clé de ce qu'on appelle en français souvent l'autonomisation, l'empowerment des femmes, hein, cette possibilité d'être mobile sans être forcément accompagnée d'un homme est un enjeu clé dans beaucoup de sociétés parce que ça conditionne quand même aussi un rôle économique, ça peut conditionner un rôle politique, etc. Hein, ça conditionne en fait la possibilité d'évoluer dans la sphère publique.
Est-ce que vous voulez dire par là, Elisabeth Hoffmann, que le phénomène de harcèlement ou le phénomène, en tous les cas, de division spatiale genrée, ça serait comme une réponse d'une société ou des sociétés masculines à ce lent mouvement d'émancipation ou d'autonomisation des femmes?
Je ne suis pas sûre qu'on peut parler d'une réponse. Disons, c'est une caractéristique de notre société, qu'elle est très patriarcale et qu'elle est caractérisée par les inégalités femmes-hommes. Et ça s'est traduit aussi par cette structuration de l'espace d'une manière où, finalement, en effet, les femmes et les hommes n'évoluent pas de la même manière dans l'espace. Voilà, dans ce sens-là, je pense que c'est plus un symptôme
qu'une réaction,
qu'une réaction, à mon avis.
Gaëlle Gillot.
Mais
Oui, les espaces, et notamment les espaces urbains, reflètent les sociétés. Ils sont un reflet de la structuration inégalitaire de nos sociétés, et notamment l'inégale répartition des espaces hommes-femmes. C'est-à-dire que le fait de vouloir contrôler notamment la mobilité des femmes, et tout en voulant, en essayant de la protéger, ça a été le cas. Par exemple, dans les transports en commun, on s'aperçoit tout à l'heure qu'Amala disait que sur les campus, on mettait un couvre-feu pour les femmes en Inde, en leur disant « Mais attention, la ville, c'est dangereux, vous risquez de vous faire harceler. » C'est ce que Michel Perrault disait, je le cite toujours, « La ville est dangereuse pour tous, mais encore plus pour les femmes. » Et les femmes ont intériorisé cette idée que la ville était dangereuse pour elles. Elles en ont fait une vulnérabilité essentielle, naturalisée, c'est-à-dire pour la femme avec un grand LA, pour la femme, la ville, la rue, l'espace public est dangereux. Et ça, c'est quelque chose qui a été intériorisé depuis la prime enfance. Toutes les jeunes femmes apprennent des réflexes de défense dans l'espace public, et on veut leur bien malgré elles, c'est-à-dire que en essayant de les protéger, on va aussi les empêcher de sortir. Au Caire, par exemple, les voitures réservées aux femmes ne le sont pas tout le temps. Elles sont essentiellement aux horaires
de pointe. Les wagons, vous voulez dire ?
Oui, les voitures de métro, les wagons de métro, elles sont essentiellement réservées aux femmes le matin aux heures de pointe et le soir aux heures de pointe. Est-ce à dire que seulement quand elles participent au développement économique du pays, les femmes ont le droit d'être dehors ? C'est une manière de contrôler leurs allées et venues en dehors de ces horaires-là. Tant pis, vous pouvez vous faire contrôler, vous pouvez vous faire harceler, c'est pas grave, vous n'avez pas à être là. Il y a une espèce de manière d'organiser la ville qui est effectivement un reflet de cette du fait que on dissocie. Que les femmes de plus en plus dissocient leur espace ne sont plus dans leur espace de proximité résidentielle. Et c'est lié aussi à l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. C'est-à-dire que les femmes arrivant sur le marché du travail sont devenues très visibles dans la rue. Ça ne veut pas dire qu'elles n'y étaient pas avant. Hein. Depuis toujours, les femmes sont dans la rue. Mais pas toutes les femmes. Et donc ce statut spatial des femmes, qui est remis en cause par le fait qu'elles ne sont plus uniquement dans l'espace résidentiel, mais circulent. Et les métros, les transports en commun, de manière générale, favorisent cette circulation, cette mobilité, eh bien, ça remet en cause ce statut spatial des femmes et ça les dissocie de leur espace résidentiel, de la maison, auquel on a l'habitude de les voir associées. Et donc, ça crée une discordance, ça crée quelque chose...
Une tension,
absolument, une tension.
Donc là aussi, même question que celle que j'ai posée à Elisabeth Hoffmann, pourrait-on dire que l'une des dimensions du harcèlement ou de la domination spatiale genrée serait une réaction au fait, comme vous le disiez, que les femmes sortent de la sphère ou de l'espace domestique parce qu'elles travaillent de plus en plus, et ça, partout dans le monde?
Absolument, il y a des enquêtes qui montrent bien que, ça fait partie de la définition du harcèlement sexuel, c'est que le harcèlement sexuel est un rappel à l'ordre, social, tout simplement.
Alors, je vous propose.
Et c'est pour cela que.
Oui, allez-y.
Je peux réagir.
Bien sûr, bien sûr.
Par exemple,
Camilla Marius.
Il faut tenir compte
en duplex de Strasbourg.
Ce que je dis aussi de la classe et de la caste. Parce que dans le contexte indien, par exemple, les femmes de l'élite aisée peuvent aller au travail avec un taxi ou leur voiture avec leur chauffeur. Donc là, elles ne sont pas, je dirais, harcelées en aucun cas. En revanche, aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, notamment en Inde, on voit qu'il y a justement ces zones économiques spéciales, ce développement économique important, et les femmes vont travailler dans ces call centers, etc., dans les usines, et c'est dans ce contexte-là qu'elles peuvent être harcelées. Et par conséquent, aujourd'hui, on voit bien dans les usines, enfin les chefs d'entreprise organisent maintenant le transport de ces femmes avec des bus privés de la compagnie en question.
Alors ça, c'est du paternalisme ou c'est de la protection ?
Alors,
puisqu'il s'agit d'ouvrières et d'usines, ou en tout cas de lieux de travail. Paternalisme ou protection ?
Alors, mais oui, mais sans cette protection, ce paternalisme, ces femmes n'iraient pas travailler. Mais ces femmes n'iraient pas travailler. Et parce que, par exemple, je prends le cas d'un district industriel du cuir dans lequel j'ai travaillé depuis de longues années. Et je me suis rendu compte que
en Inde, dans quelle région?
Dans le Tamil Nadu, au nord du Tamil Nadu. Entre Chennai et Bangalore. Hein, donc, vous avez un district industriel du cuir.
Pas loin de Pondichéry, que vous connaissez bien.
De Madras. Oui, voilà, je suis originaire de Pondichéry aussi.
Et puis, vous y êtes chercheuse associée à l'Institut français de Pondichéry.
Oui, exactement. Donc, si vous voulez, là, je me suis rendu compte, au cours de mes enquêtes, au cours de ces 20 dernières années, que ces femmes ne seraient pas allées travailler si elles n'avaient pas eu cette opportunité. Et dans ce district industriel du cuir, vous avez énormément de musulmanes. C'est un district particulier parce que vous avez aussi bien des musulmanes que des hindous, que des chrétiennes. Et dans ce contexte-là, les musulmanes qui sont pourtant dans des petites villes, hein, au sens indien du terme, des petites villes dans lesquelles, au départ, les femmes, surtout musulmanes, ne sortaient pas. Et avec, en portant même la burqa, hein, elles ont eu l'opportunité d'aller travailler. D'où le paradoxe, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre en compte aussi le contexte, c'est-à-dire le fait que ce sont des femmes pauvres qui n'ont pas d'autre choix aussi que d'aller travailler. Ça aussi, c'est important de prendre en compte.
Oui, hein, et donc vous... Là, encore une fois, vous attirez vraiment notre attention sur ce que vous avez appelé l'importance de
l'intersectionnalité.
Voilà, hein, bon, que moi je traduis peut-être avec un mot un peu inexact par le caractère multifactoriel, hein, qui fait que si on veut parler du genre, évidemment, on en parle d'autant mieux qu'on prend aussi en compte des facteurs économiques, sociaux et autres. Je voudrais... Puisque là, vous parlez chacune à votre façon, disons, de la manière dont les femmes, y compris avec de grandes difficultés, hein, collectives, s'approprient, on va dire, l'espace public, que ce soit la rue, que ce soit l'espace de travail, l'entreprise ou l'usine. Je voudrais vous faire entendre un court extrait d'un entretien que Shahinaz, la fameuse blogueuse égyptienne, avait accordé dans un documentaire diffusé sur France Culture à l'été 2014. Nadzawiya, les nouvelles féministes du monde arabe, dont vous retrouverez d'ailleurs un extrait beaucoup plus long qui sera diffusé sur les docs tout à l'heure à 17h.
Tu marches dans la rue, il faut vraiment faire attention, regarder tout le temps s'il y a des hommes, où sont les hommes. Déjà marcher vite, parce que comme ça ils vont pas te voir. Donc tu marches vite, tu regardes partout autour de toi, tu calcules très vite dans ta tête, parce que ça peut venir de partout. Parce qu'un homme qui arrive proche de toi, il va peut-être toucher entre les jambes ou les seins, ou il va venir dans tes oreilles pour dire un mot très vulgaire, genre je veux te baiser. C'est vraiment l'enfer. Tu peux pas marcher dans la rue tranquille. Tout le temps, toutes les minutes, toutes les secondes, c'est horrible. L'harcèlement sexuel, on va le confronter dans la rue. La femme égyptienne, elle va continuer sa lutte pour changer la société et on va garder la rue. On n'attend rien du pouvoir. Le pouvoir, il va utiliser les femmes comme il utilise les chrétiens et les coptes, quand il utilise tout. On va changer de la rue. J'ai participé à un mouvement populaire féministe. Elle portait le nom en cours d'un Bahia. Bahia, ça veut dire la belle. Surtout sur l'Égypte, c'est comme une belle femme. C'était génial parce que c'était vraiment un mouvement. C'était pas comme toutes les, on va dire, les associations féministes où on reste pour faire des débats théoriques sur les droits des femmes et tout. Non, on était vraiment. On faisait partie de la rue. La révolution, elle a donné ça. Déjà, j'ai vu la femme pour la première fois avec des centaines et des milliers dans la rue. Ça, c'est pour moi, c'était une révolution parce que à l'époque, on voyait pas les femmes dans la rue.
Alors Gaëlle Gillot, on est à quelques jours de la commémoration du 5e anniversaire de la révolution égyptienne, dont on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'il en reste 5 ans plus tard, mais en tous les cas, s'agissant de la place des femmes, ou comme on ne le dit plus maintenant, de la condition féminine, qu'est-ce que vous qui avez particulièrement étudié les jardins publics, les espaces publics, qu'est-ce que vous inspire donc cet extrait des propos de Shahinaz, qu'encore une fois, on entendra plus longuement tout à l'heure à 17h dans Sur les Docs.
Oui, c'est malheureusement une réalité qui est largement partagée par l'ensemble des femmes en Égypte. Le harcèlement touche tout le monde, toutes les femmes, absolument toutes, des petites filles jusqu'aux grand-mères. Une enquête de l'Egyptian Center for Women's Rights avait fait état en 2008 du fait que 83% des Égyptiennes étaient harcelées pratiquement quotidiennement. Et que 98% des étrangères interviewées avaient déclaré être harcelées. En 2012, il y a une nouvelle enquête et le taux a encore augmenté puisqu'on est à 93% des Égyptiennes. C'est un sport national, le harcèlement en Égypte.
Ça s'explique ?
Alors ça s'explique, certainement par une culture de l'inégalité qui est profondément ancrée en Égypte et qui n'est pas combattue par les pouvoirs politiques. Les lois en Égypte ne sont pas des lois qui permettent aux femmes d'obtenir l'égalité. Elles n'ont pas de représentation parlementaire ou très peu. Le fait d'être juge, c'est une exception. Et travailler, c'est du petit travail pour beaucoup. Ou alors, là encore, on est dans une très grande différence entre les classes sociales. L'accès à l'espace public est extrêmement différent selon qu'on appartient à une classe sociale aisée ou pas. Comme le disait Kamala, ça se retrouve exactement de la même manière en Égypte. Et au moment de la révolution, on a eu un phénomène tout à fait incroyable. C'est-à-dire que les femmes qui sont de toute façon présentes dans la rue en Égypte, même si elles se font harceler, elles sont présentes. Kamala disait aussi tout à l'heure, elles n'ont pas peur. Si, elles ont peur, mais elles apprennent de plus en plus à se défendre. Il y a beaucoup de cours d'autodéfense qui se développent, hein, qu'on a notamment été étudiés par Perrine Lachenal, qui a travaillé sur les cours d'autodéfense au Caire, qu'on voit aussi très bien dans le film qu'on connaît bien maintenant, le bus 678, cette femme qui se fait harceler quotidiennement, finit par ne plus pouvoir aller travailler, se venge. On parlait aussi de l'épingle tout à l'heure, qui est une pratique très courante. Hein, les féministes à Istanbul vendent des épingles dans la rue, avec un petit ruban violet. C'est aussi lié à l'opposition politique. Les mouvements féministes qui travaillent sur la fin du harcèlement sexuel en Égypte représentent une opposition. C'est-à-dire que pendant la montée de la révolution, hein, Place Tahrir en 2011, il n'y avait pas de violence contre les femmes, ou très peu, on en a relevé très très peu. Mais Naoula Darwish, qui nous expliquait dans une école d'été qu'on a faite au Maroc en 2012, nous expliquait qu'en le 11 février 2011, donc le jour où Moubarak a annoncé son départ, eh bien le harcèlement a commencé. Et il a commencé non seulement par les différents manifestants qui étaient sur place, mais également par des loyaux du régime qui ont été lancés contre les femmes, qui ont reçu une feuille de route pour casser le mouvement.
Donc armes politiques.
Armes politiques.
Plus que, on va dire, mouvement social, entre guillemets, ou
non,
culturel.
Les deux.
Les deux.
C'est-à-dire...
Parce que je me permets de rebondir, mon regard se tourne à distance, puisque vous êtes à Bordeaux, vers vous, Elisabeth Hoffmann, parce que ce que vient de dire Gaëlle Gillot me fait penser, par une analogie que vous allez peut-être trouver un peu exagérée, mais à l'utilisation du viol comme arme de guerre, en particulier en République démocratique du Congo. Mais on sait aussi, il y avait eu un article poignant de Annie Cojan dans Le Monde il y a 3 ans, je crois, maintenant, hein, sur l'utilisation du viol comme arme de guerre par le régime et l'armée de Bachar el-Assad.
Je pense qu'il y a un autre facteur qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est le rapport à la sexualité, qui est quand même très différent concernant la sexualité féminine, qui est souvent vue comme quelque chose qu'on doit contrôler, et la sexualité masculine qui est plutôt vue comme difficilement contrôlable. Je veux dire, on a quand même très facilement des discours qui expliquent plus ou moins combien c'est difficile pour des hommes de vraiment maîtriser l'ensemble de leurs pulsions, etc. Et ça, c'est aussi un discours qu'on entend dans les violences contre les femmes en temps de guerre. Bon, il y a évidemment différentes cas de figure. Il y a, dans certains conflits, en effet, une instrumentalisation, disons, une certaine orchestration des violences contre les femmes, vraiment comme, oui, comme manière d'atteindre l'honneur de l'ennemi. Finalement, les femmes ne sont pas vraiment la première cible. Les femmes sont un moyen pour toucher leur mari, leur père, les hommes du peuple concerné, du peuple ennemi. Et ça, c'est des situations qui sont quand même assez classiques aussi, qu'on retrouve dans beaucoup de conflits, plus ou moins explicitement ou implicitement. Alors, par rapport à la RDC, en effet, au sein du réseau Genre en Action, dont je fais partie, tout comme Kamala d'ailleurs, c'est un réseau.
On a mis le lien sur le site, sur la page de Planétaire, vous verrez le lien du réseau Genre en Action.
Donc, Genre en Action est un réseau francophone international sur la thématique genre et développement. Et on a en effet des membres de RDC.
République démocratique du Congo.
Oui, Anima Tundu, par exemple, qui est très engagée aussi au sein de la WILF, la Women's League for Freedom and Peace, où justement cette question du rapport des femmes, disons, de la place des femmes dans la question des conflits en général et de leur résolution est vraiment un enjeu très très important. Et les violences à l'égard des femmes dans les conflits est encore trop souvent vue comme tout simplement un dommage collatéral. Et là, je reviens un peu à ce que j'ai dit au début de cette remarque. Un dommage collatéral parce qu'on considère que voilà, ces combattants qui sont tous très loin de leur famille, etc., c'est un peu normal qu'il y a comme ça des petites exactions. Et ça, c'est quand même très grave aussi, cette banalisation des faits de violence à l'égard des femmes, même dans des conflits où on n'est peut-être pas dans une stratégie de viol comme arme de guerre.
Et que peut l'éducation par rapport à ça? Parce qu'il y a quelque chose qui me frappe depuis un bon quart d'heure maintenant, c'est que, vous disiez tout à l'heure, Gaëlle Gillot, on a intériorisé la domination masculine, en particulier dans l'espace public. Vous, Elisabeth Hoffmann, vous disiez, on explique que, disons, le viol en temps de guerre par des pulsions. Mais on, c'est qui? C'est-à-dire, en clair, ça veut dire, est-ce qu'il faut comprendre les hommes, la société patriarcale? Et puis, si c'est une norme dominante, sauf erreur de ma part, si les femmes dans un certain nombre de sociétés, voire dans toutes les sociétés, disons, ont une place privilégiée dans l'espace domestique et dans l'éducation des enfants, quel est le rôle des mères alors? Dans ces intériorisations, dans l'établissement et la transmission de ces normes. Qui veut répondre à cette question? Peut-être que c'est une question d'homme, j'en sais rien. Mais...
Non,
oui, c'est une question délicate.
Alors,
la responsabilisation des mères par rapport à l'éducation des garçons, ça c'est un sujet souvent critique,
Elisabeth
parce qu'on
Hoffmann.
en fait comme si les garçons étaient élevés uniquement par leur mère. Non, mais c'est clair que l'éducation est un enjeu clé. Mais je veux dire, là on parle beaucoup des violences, mais les violences sont quelque part un effet extrême des inégalités entre femmes et hommes et entre filles et garçons qui sont vraiment omniprésents dans notre société. Regardez chez nous, dans un magasin de jouets, comment dès tout petit on différencie garçons et filles, comment on construit vraiment socialement des rôles et des identités différentes. Donc, c'est pas la mère toute seule qui va pouvoir changer tout ça.
C'est pas ce que j'ai voulu dire, Elisabeth Hoffmann. J'ai pas voulu dire que la mère toute seule pouvait changer. Ma question, c'était plutôt, du moins si ça a été documenté par des études et par des recherches, dans l'espace domestique, est-ce que les mères sont, même à leur corps défendant, c'est le cas de le dire, elles ont intériorisé ces normes et elles les transmettent et finalement elles les développent? Ou pas, indépendamment, si j'ose dire, du fait de savoir si elles peuvent à elles seules changer les choses, Gaëlle Gillot.
Alors, à elles seules, elles ne pourront pas changer les choses, ça c'est sûr. Alors, il y a, en fait, quand on éduque nos enfants, on fait partie d'un groupe social. Et de manière générale, les hommes, les femmes reproduisent des structures qu'ils ont apprises. Et de manière aussi générale, on s'aperçoit que la plupart des pays ont des hiérarchies discriminantes des rapports sociaux de sexe. Les femmes étant souvent donc discriminées, il y a là des enjeux de pouvoir qui sont importants. Et dans la violence fondée sur le genre, ces enjeux de pouvoir, ils sont transformés en abus de pouvoir, hein, un déni de dignité, de négation de l'être, en fait, pour finalement corriger les femmes en cas de résistance ou les corriger avant qu'il y ait toute forme de résistance. Éventuellement, le corps féminin, c'est un construit, hein, qui est lié en partie à la maternité, et le fait qu'il soit un objet de désir sexuel, qu'il soit fécondable, qu'il soit offert à la sexualité dans la construction, hein, on a l'impression qu'il est comme ça, eh bien, ça va faire qu'on va là encore essayer de rappeler à l'ordre ces femmes qui sont des objets sexuels. Et les femmes ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire, par exemple, il y a une enquête, une grande enquête qui est en cours et qui a déjà été faite dans beaucoup de pays, une enquête faite par Promundo, dont Chérine Elfeki, qui est aussi citée dans... avec laquelle je travaille directement pour le Maroc. C'est une enquête sur les masculinités. Et Promundo a montré que plus les hommes sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, moins ils sont violents ensuite envers les femmes. C'est un des résultats, mais il y en a beaucoup. Et quand on travaille sur les masculinités, on s'aperçoit de ce qui, justement, des leviers sur lesquels on peut travailler pour diminuer ces différences et ces discriminations entre les hommes et les femmes.
Je voudrais vous proposer, pour poursuivre ce que vous disiez à l'instant, Gaëlle Gillot, peut-être de faire un tout petit pas de côté, un petit pas vers le Japon. Aucune de vous trois n'est spécialiste du Japon. Moi, évidemment, encore moins que vous, bien sûr. Mais il se trouve que hier soir, dans son émission Hors Champ, Laure Adler a diffusé une interview passionnante avec un grand professeur d'université, sociologue, qui maintenant s'habille en femme lorsqu'il va faire cours. Et toute la semaine, Hors Champ est à Tokyo. Je vous propose d'écouter un très court extrait de cet entretien hier soir.
Est-ce qu'il n'y a pas un harcèlement, justement, aussi, à travers le culte de la beauté, de la Lolita, de la jeunesse, en ce moment au Japon, qui finalement structure les individus, bien malgré eux, Ayumu Yasutomi ?
そうですね。それは女性を無力化するためのすごく重要な表象だと思います。無力化ですね。で、無力感を抱いた人は、そのモラルハラスメントにかかりやすくなりますね。
Oui, on peut dire effectivement que les Lolita, enfin toutes ces figures de la féminité telles qu'elles existent aussi au Japon, travaillent à imposer une forme de, comment dire, d'impuissance, de non, tout simplement, c'est maintenir les femmes dans une position de faiblesse finalement, de ne pas pouvoir s'approprier une position disons forte dans la société.
でも逆にその男性の場合はその先ほどの靖国主義みたいなものの
Mais on peut dire aussi que les hommes japonais qui sont confrontés dans cet esprit de Yasukuni justement à être toujours les plus forts, et comme ils n'y parviennent pas, ils échouent, donc ils sont aussi contraints à cultiver une forme de culpabilité précisément de par leur échec à ne pas être conforme au modèle qu'on leur demande d'incarner.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors, que vous inspire les unes et les autres ce détour par le Japon, c'est un peu paradoxal ce qu'on vient d'entendre. Gaëlle Gillot.
Non, je ne trouve pas que ce soit tellement paradoxal. En fait, on retrouve un petit peu partout ce même type de phénomène. Et par exemple, Abdeslam Dialmi, pour le Maroc, parle du fait d'être violent envers les femmes ou du harcèlement. Il parle de ça en disant « c'est une blessure narcissique d'un moi patriarcal humilié ». Alors, justement, le travail sur la masculinité, qu'est-ce qui fait homme, qu'est-ce qui fait femme, est extrêmement important pour pouvoir comprendre ce qui est humilié éventuellement. Et ce qui est humilié dans beaucoup au Maroc, par exemple, ou même dans le Maghreb de manière générale, c'est que les jeunes hommes ne trouvent pas de travail. Il y a un chômage des jeunes diplômés qui est extrêmement important. Et du coup, il y a des frustrations économiques très fortes. Il n'y a pas d'ascension par le mérite. Et Dialmi, toujours, analyse ça, fait le lien avec le harcèlement ou avec des comportements de la violence faite aux femmes par l'idée que les jeunes hommes, du coup, se cramponnent à des expressions, aux expressions sociales et juridiques de la domination masculine pour, justement, guérir cette blessure narcissique de leur moi patriarcal humilié.
Alors, attendez. Ça veut dire que s'il y avait le plein emploi partout, il n'y aurait plus de harcèlement nulle part? C'est ça qu'il faut comprendre ou pas?
Non, non, non. Non, bien sûr que non. On sait très bien que des grands patrons, des hommes politiques harcèlent et que ça n'est absolument pas lié à leur moi patriarcal humilié. Mais c'est pour expliquer une partie des comportements qu'on retrouve à grande échelle.
Bon, il nous reste quelques minutes. Moi, j'avais titrer l'émission avec un point d'interrogation, l'espace des femmes est-il en recul? Disons, pour aller vers la conclusion de cette émission, les unes et les autres, qu'est-ce que vous répondriez à cette question si vous ne la réfutez pas? Peut-être qu'après tout, il ne faut pas la poser en termes de progrès ou de recul. Qui veut répondre? Kamala Marius?
Non, je ne pense pas que cet espace soit en recul, au contraire, hein, on le voit bien. Moi, je prends le contexte indien que je connais mieux.
Bien sûr.
Il n'empêche que en quelques années, grâce justement à ce développement économique que connaît l'Inde aujourd'hui, les femmes ont pu aller à travailler et par le travail, elles ont pu bouger et par cette mobilité, elles ont pu justement, comme disait Elisabeth tout à l'heure, être empowered, comme on dit. Hein, c'est le concept d'empowerment qui fait qu'elles, grâce à ces mobilités, eh ben, elles prennent un peu plus de pouvoir, elles prennent la parole, c'est pas toujours facile, mais grâce à des associations, grâce à des réunions régulières, ces femmes, maintenant, osent prendre la parole, osent sortir, osent prendre une place dans cette société, dans ces sociétés toutes quasiment patriarcales. Hein. Voilà.
Elisabeth Hoffmann, votre réponse. L'espace des femmes est-il en recul dans le monde?
Non, au contraire. Moi, je pense aussi que cette mobilisation médiatique se traduit aussi par une mise sur agenda de la thématique des violences à l'égard des femmes. Hein, ça, c'est quand même quelque chose qui est très important. Objectivement, je ne pense pas qu'il y a plus de violences aujourd'hui qu'avant. Et ça, c'est une bonne chose. On en parle plus. Hein, et ça devient plus, justement, une thématique aussi pour les politiques publiques, hein, c'est cette mise sur agenda aussi des politiques publiques qui est importante. Évidemment, dans l'espace médiatique, c'est souvent un peu problématique, comme on a vu après les faits de Cologne, hein, qui a très facilement un peu des dérives et des accents mis sur certaines caractéristiques des faits de violence à l'égard des femmes, mais peut-être on oublie un tout petit peu qu'au cœur, en effet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est des faits presque universels, tristement universels, j'ai envie de dire. Et ça, c'est important, parce que ces faits ont toujours existé, mais étaient relativement banalisés. Hein. Et puis bon, quelque part, il y avait toujours un peu cette idée, les femmes le cherchent, celles qui sont dehors, hein, celles qui sont dans l'espace public. Et même le fait de reconnaître ce harcèlement comme des violences, c'est quand même pas si vieux que ça, et ça c'est positif, parce que finalement, des violences ne sont pas forcément des faits objectifs, c'est aussi toute une question de qui a le droit de nommer un fait violence, hein, notamment dire à une femme dans l'espace public qu'elle est belle, voilà, on peut en discuter, est-ce que c'est une violence ou pas, mais si la femme se sent vraiment gênée par rapport à ça, en effet, on peut considérer que c'est une violence, mais tout le monde n'a pas le pouvoir de nommer ça, hein. Chrétien a travaillé sur ça, hein, c'est un fruit d'une négociation pour dire un acte est une violence.
Alors, Gaëlle Gillot, en 30 secondes, réponse à cette question, l'espace des femmes est-il en recul dans le monde ?
Non, il n'est pas en recul dans le monde. Au contraire, les femmes sont en train de gagner leur droit à la ville. Elles utilisent les espaces publics comme des espaces de liberté. Elles ont une meilleure connaissance de la ville que les hommes. Et elles ont gagné le fait que la violence à leur égard est arrivée à l'agenda politique international depuis les années 2000, qu'il y a eu la déclaration de la CEDAW qui a été signée en 1993, qu'elle continue à être signée par de plus en plus de pays et qu'il y a des programmes internationaux comme l'ONU Femmes, par exemple, qui a mis en place des programmes qui s'appellent Safe Cities, qui sont destinés à les aider à garder ce droit à la ville.
Bon, bah c'est sympathique en tous les cas et peut-être un peu inattendu de terminer sur une réponse aussi positive et unanimement de vous trois. L'émission touchant à son terme, Gaëlle Gillot, Elisabeth Hoffmann, Kamala Marius, merci beaucoup pour vos précieux éclairages. Je convie tous les auditeurs à prolonger cette émission sur le site web de France Culture à la page Planète Terre puisque y figurent les liens vers vos différents articles, vos différentes pages. Et vos différentes publications. Vous pouvez également, sur le site de France Culture, retrouver ou réécouter ou écouter une émission que j'avais produite en 2014 sur la ville comme espace machiste. C'était l'espace des femmes est-il en recul dans le monde, terminé pour aujourd'hui, en tout cas à 17h, Luc-Jean Reynaud, Clément Daté, France Bleu Alsace, France Bleu Gironde, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France ont enregistré et préparé cette émission à mes côtés, je les en remercie beaucoup. Vous pouvez cette émission l'écouter à nouveau en ligne pendant 1000 jours, vous pouvez la podcaster pendant un an, vous pouvez également la suivre et la partager sur mes comptes Facebook et Twitter. Merci à tous de votre attention et de votre fidélité. Demain, jeudi à 16h, dans Culture Science, ne manquez surtout pas la marche des sciences d'Aurélie Luneau et pour le moment sur France Culture, juste après les bonnes feuilles. La journée violence contre les femmes, sortir du silence se poursuit de 17h à 19h sur France Culture, dans Sur les docks d'abord, puis Du grain à moudre ensuite.